France Culture.
J'ai une passion pour le vélo que j'ai jamais eu pour le tennis et pourtant j'aimais beaucoup ça, vraiment j'y consacrais beaucoup de temps et j'aimais ça, mais le vélo c'est un sport qui est extrêmement dur, extrêmement ingrat, mais qui est aussi on se dépasse tellement physiquement que je dirais il y a aussi un déferlement de dopamine qui est sans commune mesure. Ça dépasse toute la passion que j'ai pu avoir pour le tennis.
Tour de France féminin, le récit d'une conquête. Élise Gruau, François Test. Deuxième épisode, renaissance du cyclisme féminin.
C'est vraiment des passionnés à la base, quoi, parce que pendant très longtemps, il n'y a pas eu cette notion « je peux arriver à gagner ma vie à travers le vélo ». Ça n'existait pas. Il n'y avait pas de carrière cycliste qui leur a été proposée. On peut demander même aujourd'hui aux coureuses cyclistes actuelles, les meilleures françaises, Evita Music, Juliette Labousse, quand elles ont grandi, quand on leur demandait quel était leur métier de leur rêve, elles n'écrivaient jamais coureuse cycliste, parce que c'était un métier qui n'existait pas.
Après 32 ans d'arrêt, le Tour de France féminin renaît en 2022. Derrière le succès croissant de chaque nouvelle édition de cette course mythique, enfin déclinée au féminin, se cache pourtant l'histoire de la difficile accession des femmes au cyclisme professionnel. C'est grâce à la mobilisation des pionnières pour créer les conditions matérielles de leur professionnalisation qu'aujourd'hui, plus de 300 femmes au niveau mondial vivent de ce métier. Elles n'étaient qu'une trentaine en 2018, qu'une dizaine en 2008. Nous avons décidé d'aller à la rencontre des nouvelles générations, dans ces coulisses toutes récentes de la fabrique des championnes, où des jeunes femmes sont en passe de devenir les nouvelles héroïnes de la petite reine. Maïna Bessière, vous êtes cycliste et vous êtes dans l'équipe de Prasur-Arly. Comment est-ce que vous avez débuté le vélo ?
Alors j'ai commencé le vélo à l'âge de 6 ans en regardant le Tour de France à la télé et je me suis dit tiens ça peut être sympa d'aller faire du vélo, donc je me suis inscrite dans un club à côté de chez moi et ça m'a bien plu, donc je me suis dit c'est parti, hein, l'aventure commence.
Et vous avez quel âge aujourd'hui ?
Aujourd'hui j'ai 18 ans. Après il y a eu une période où je pense que je me suis un peu lassée, j'avais envie de voir autre chose, j'avais plein d'autres amis qui faisaient d'autres sports et donc je me suis mis au handball. Ça m'a permis de voir le sport collectif, c'était un peu différent du vélo. Puis au final, le vélo, ça m'a trop manqué, donc j'ai repris ma licence dans un club où il y avait un peu plus de féminines que là où j'étais au début, donc à Bourg-en-Bresse. Et j'ai vu que ça marchait plutôt bien, donc après j'ai entendu que l'équipe en Haute-Savoie se montait. Donc j'ai appelé Fred et puis ça a bien marché. Et maintenant je suis au team Prasur-Arly depuis 2 ans.
Et comment ça se passe les entraînements ici à Prasur-Arly ?
L'hiver, là, ça a été un peu compliqué, il faisait froid. Mais là, on attend le soleil. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir aller pas mal en Espagne pour préparer ma saison. Donc, plutôt cool et j'ai pu bien borner.
Et on est dans le café La Ultima, qui est derrière l'église de Prasur-Arly. Et on a tout un décor dédié au Tour de France féminin autour de nous. Et on rencontre Frédéric Hurlin, qui est entraîneur d'une équipe 100% féminine.
Oui, 100% féminine, en effet. Ouais. Ouais, c'est un groupe de 9 filles, 9 jeunes femmes, qu'on a constitué il y a maintenant un an et demi, pour courir à l'échelon amateur, en Coupe de France, sur route. Et le cyclisme amateur féminin a 2 divisions. Et nous, on a décidé d'évoluer en 2e division.
Comment est-ce que vous voyez l'évolution du cyclisme féminin ?
C'est ultra rapide. Le cyclisme féminin que j'ai connu il y a 15 ans, lorsque j'ai commencé à travailler en cyclisme féminin, il y avait une ou deux filles qui roulaient comme ça de temps en temps, il y avait peu d'équipes. Les pros n'étaient pas des pros. Il y avait peut-être une ou deux filles qui gagnaient leur vie avec le cyclisme. Et en quelques années, on est passé à quelque chose qui est extrêmement proche de ce qu'on trouve chez les hommes. Alors bien sûr, du point de vue salaire, les salaires maximum sont pas les mêmes, bien sûr, entre les hommes et les femmes. Hein, mais déjà, les salaires minimums sont les mêmes. Les femmes gagnent au minimum la même chose que les hommes, donc ça c'est déjà pas mal.
Et c'est combien ?
La troisième division en France, le salaire minimum, c'est le salaire minimum français, c'est le SMIC. Donc ça, c'est déjà une grosse avancée. Ensuite, les équipes se sont structurées, les clubs aussi se sont structurés. Moi, c'est ce qui m'a incité à vraiment pousser dans le cyclisme féminin, parce que je voyais des jeunes femmes, des jeunes filles qui s'entraînaient, qui mettaient vraiment du temps dans leur pratique, des moyens dans leur pratique, mais qui n'étaient pas considérées. On partait toujours avec la vieille voiture en course, avec les vieux maillots, avec des maillots troués, avec des maillots trop grands, avec les vieilles roues, alors que les garçons, ils ont toujours la bonne voiture, les bonnes tenues. C'est un peu dommage.
Fanny Lechevestrier, vous êtes journaliste à la direction des sports de Radio France. Est-ce qu'à l'étranger, les femmes avaient moins de difficultés à se professionnaliser dans le cyclisme qu'en France ?
Il y avait plus de moyens, notamment aux Pays-Bas. C'est le pays du vélo, de la petite reine, on le dit régulièrement. Les cyclistes font du vélo depuis toute petite. Donc beaucoup d'équipes néerlandaises, en Belgique également, le vélo, c'est une institution aussi. Donc des coureuses belges performantes en France, on a encore un petit peu de retard là-dessus, mais ça s'équilibre. Donc oui, aux Pays-Bas, bah, l'an dernier, le Tour de France Femmes est parti des Pays-Bas, de Rotterdam. Et là, on a vu les caméras de télévision, il y en avait dans tous les sens. C'est un vrai engouement, c'est une culture vélo, qu'elle soit faite par des hommes ou faite par des femmes, on ne fait pas la différence là-bas. En France, on fait encore le Tour de France homme, et encore un peu plus, voilà, on a ce côté macho, je dirais, peut-être, des supporters, mais ça, on y arrive aussi en France, petit à petit.
Océane Mahé, vous êtes née en 2002, vous êtes une coureuse cycliste professionnelle. Comment avez-vous débuté le vélo ?
Bien, j'ai commencé le vélo assez tard par rapport à la plupart des filles avec qui je suis en compétition actuellement, puisque avant je faisais du tennis. J'en ai fait pendant une douzaine d'années avant qu'une blessure à l'épaule vienne me stopper définitivement. Donc j'ai commencé le vélo à peu près quand j'avais 17 ans. En fait, c'était la passion de mon père. Lui, il a beaucoup fait de compétition étant plus jeune. Et du coup, voilà, je m'y suis mis un petit peu avec lui, d'abord pour des balades et puis ensuite par la compétition.
Aujourd'hui, vous faites partie de l'équipe Arkea B&B Hotel, Océane Mahé. Est-ce qu'en tant que femme, vous avez ressenti des freins pour vous professionnaliser dans le cyclisme ?
Je dirais plutôt au contraire, en fait, je pense que j'ai eu un petit peu cette chance de performer dans une époque où les équipes cherchaient des filles de bon niveau pour remplir leurs effectifs. Aujourd'hui, il est plus difficile pour un homme que pour une femme de passer chez les professionnels parce que aussi la concurrence est plus en termes de nombre. Il y a beaucoup plus d'hommes à faire du cyclisme que de femmes. Donc non, pas particulièrement de freins. Et au contraire, je trouve qu'il y a un engouement autour du cyclisme féminin aujourd'hui, notamment grâce à toutes les compétitions comme le Tour de France, Paris-Roubaix, qui existent désormais chez les filles, qui permettent une visibilité importante. Et voilà, on est dans une belle époque pour le cyclisme féminin.
Fanny Lechevestrier.
Les jeunes, justement, elles nous disent qu'elles n'ont pas vécu les difficultés. Faut interroger en fait les plus anciennes, celles qui ont connu la version amateur, qui ont galéré pour faire vivre tout simplement de leur passion. Et à chaque fois, je me souviens notamment d'Audrey Cordon-Rago qui a longtemps porté à bout de bras le cyclisme français féminin. Et elle a tout vécu. Elle a vécu, voilà, au début de devoir d'aller à l'étranger pour pouvoir vivre de sa passion. Et de voir le Tour de France femme renaître comme ça, elle en avait à chaque fois, elle en parlait avec les larmes aux yeux, parce que elles ont obtenu des droits. Et il faut savoir, avec l'aide de l'Union cycliste internationale, l'UCI, qui régit le cyclisme mondial, qu'il soit homme ou femme, il y a eu des accords de mise en place avec les équipes. Maintenant, il y a un salaire minimum de base pour les coureuses professionnelles également. Elles ont des droits sur les congés maternité, par exemple. On a plusieurs cyclistes féminines qui ont pris un congé maternité et sont revenues à la compétition. Donc voilà, petit à petit, il y a un cadre très professionnel qui se met en place. Les équipes jouent de plus en plus le jeu. Les jeunes, elles arrivent, elles regardent ça, elles disent « bah ouais, c'est possible, elles le savent ».
Au
Océane Mahé, vous êtes championne de France Espoir 2023 et à la suite de ce prix, vous avez remporté ce contrat professionnel. Aujourd'hui, vous menez une double activité, vous êtes à la fois coureur professionnel en cyclisme, mais vous êtes aussi étudiante. Comment est-ce que vous combinez ce double cursus ?
C'est vrai que, comme je l'ai dit, je suis passée professionnelle relativement tard et moi j'avais commencé des études qu'il n'était absolument pas question d'arrêter parce que voilà, j'ai toujours aimé ça. Et du coup, aujourd'hui, j'ai la chance que mon école, donc c'est l'école des mines à Nancy, une école d'ingénieurs, mon école m'ait aménagé mon emploi du temps. Ce qui fait que je suis actuellement en deuxième année d'école et j'étais déjà en deuxième année d'école l'année dernière. J'étale cette année-là sur 2 ans, ce qui fait que j'ai 50% des cours seulement par semaine par rapport à mes camarades. Donc ça me libère quand même un temps conséquent pour m'entraîner et ça me permet voilà de trouver un équilibre entre les deux qui se vit bien, on va dire.
Marion Collin, est-ce que vous pouvez raconter ce que vous êtes en train de faire ?
Je suis en train d'installer un vélo sur home trainer parce qu'on a un groupe de filles cet après-midi qui a pas beaucoup de temps entre les cours et du coup qui fait une séance sur home trainer. Et on utilise aussi le home trainer quand vraiment le temps est catastrophique en hiver ou que c'est dangereux pour rouler dehors. Voilà, c'est un outil qui est vraiment très pratique, qui nous permet quand même de s'entraîner malgré la pluie ou malgré des temps de séance qui sont très courts.
Donc vous accrochez la roue arrière des vélos, des vrais vélos des athlètes ?
C'est ça. Et donc Maïna, elle va réaliser une séance de sprint. Pardon. Elle va réaliser un petit échauffement. Et puis après, je lui donnerai des billes de départ pour faire ses sprints.
Qu'est-ce que vous avez trouvé dans le vélo qui vous a passionné ?
Le dépassement de soi, parce que il faut se dépasser pour réussir. La vitesse. C'est quelque chose que j'aime bien. Et le dépassement de soi, ouais.
Et la vitesse ?
Alors moi, j'ai tendance à beaucoup poser le cerveau et ouais, prendre de la vitesse. J'aime bien l'adrénaline que ça procure. J'ai pas trop peur, donc jusqu'à ce que je me mette une bonne boîte, à mon avis, mais...
Donc ça veut dire que vous allez descendre à toute vitesse ?
Ouais, globalement, c'est ça.
Prête ?
Allez, propose.
Allez, top! Top! Top!
Frédéric Urlin, quand vous observez Tour de France top. Masculin, Tour de France féminin, aujourd'hui, quelles sont les grandes différences qui demeurent?
Alors, les différences qui demeurent, principalement, ce que tout le monde voit, c'est la durée. Tour de France masculin, c'est 3 semaines. Tour de France féminin, c'est 8-9 jours. Parce qu'il y a encore, malgré tout, une disparité de niveau. Le peloton est quand même assez hétérogène chez les femmes. Et si on était sur un Tour de France féminin de 3 semaines, il y aurait énormément d'écart entre la première et la dernière. Il y aurait peut-être plus forcément de jeu. Ça va se combler. On peut espérer peut-être que dans 5-10 ans, il y aura peut-être 15 jours de Tour de France féminin. Et ce sera pertinent. Pour le spectacle, ce sera pertinent.
Alors ici, on se trouve à Chambéry. On est dans les mêmes locaux qu'anciennement le centre de formation cyclisme masculin et le club de DN1 de Chambéry. Du coup, je suis Marion Collin, je suis directrice et entraîneur du pôle cycliste féminin. J'ai créé cette structure avec Patrice Pion, le président de la structure, en 2020. Donc notre première année scolaire a commencé en septembre 2020 et on a commencé avec 8 athlètes la première année et aujourd'hui on en a 27. Donc c'est preuve que notre structure évolue vraiment bien, le niveau des athlètes monte chaque année. Et du coup, là, on se trouve au centre de formation, donc à l'endroit où les athlètes viennent s'entraîner. On est tout près du lycée Louis-Armand, lycée avec lequel on est partenaire pour la partie scolaire. Parce que, comme on le dit, on est bien un double projet. Donc les athlètes font leur scolarité et en même temps ont des horaires aménagés pour s'entraîner. Et c'est point clé de nos structures. Une athlète qui n'a pas de projet scolaire ne peut pas venir dans le centre de formation parce qu'on y apporte autant d'importance que la partie sportive. C'est aussi, comme vous disiez, une structure 100% féminine. Donc on a la chance d'avoir tout un staff médical qui peut les suivre et qui peut aussi s'adapter justement à la morphologie d'une athlète féminine. Et puis tout ce qui l'entoure. Donc elles sont vraiment très très bien suivies au niveau de l'entraînement, mais aussi de tous ces à côté.
C'est combien d'heures d'entraînement hebdomadaire pour les athlètes ?
Selon les catégories, c'est entre 10 et 15 heures d'entraînement en moyenne. Après, forcément, ça varie. Parfois, il y a des grosses charges d'entraînement. Les athlètes peuvent monter à 25 heures d'entraînement dans la semaine. Et puis des semaines un peu plus de récupération où elles sont plutôt aux alentours de 8 à 10 heures.
Marion Cartier, comment est-ce que vous avez choisi le vélo ?
J'ai toujours été vachement attirée par le sport depuis toute petite. J'ai essayé un peu tous les sports. C'est un sport de famille à la base, le vélo. Donc je voyais un peu tout le monde faire du vélo. J'avais mes grandes cousines qui étaient aussi au club. Et au début, mon papa voulait pas que je fasse du vélo parce que c'était un sport vraiment dur. Et si on commence jeune, en général, c'est assez facile de lâcher parce que c'est vraiment un sport où il faut s'accrocher. Mais j'ai vraiment insisté et il m'a laissé commencer. Et à partir de ce moment-là, j'ai pas décroché. Donc ça fait 10 ans que je suis là-dedans. Je suis arrivée au pôle donc il y a 5 ans, au tout début du pôle, où donc on était que 8. Donc on peut voir que ça a bien évolué maintenant. Et donc je suis passée l'année dernière justement en National 1 à Chambéry.
Qu'est-ce que le pôle d'entraînement de Chambéry vous a permis de faire ?
Ça m'a permis, je pense, de pouvoir plus m'entraîner, donc avec des horaires aménagés, ce que je pouvais pas faire avant. Et ensuite, de pouvoir aussi m'entraîner avec un groupe, parce que quand on est dans un petit club, donc comme j'étais avant, j'étais un peu la seule fille à rouler avec des garçons, donc c'est plus compliqué de les suivre et puis d'avoir la motivation de toujours aller à l'entraînement. Alors que là, on est toujours tous ensemble, il y a une bonne ambiance, ça donne envie d'aller s'entraîner. Et donc je pense qu'on se tire toutes vers le haut. Ça a été mon but depuis petite. Quand on l'a en tête depuis toujours, je pense qu'on arrive à s'y tenir. Et j'ai aussi ma famille qui me soutient, qui est dans le vélo, donc qui comprend ce sport, qui comprend la difficulté et qui m'aide mentalement.
Et ça fait longtemps que les femmes aussi dans la famille font du vélo ?
Oui, justement, je pense que c'est pour ça. J'ai vu mes cousines avant moi en faire et ça m'a vachement inspirée.
Frédéric Hurlin, est-ce qu'il y a une approche différente qu'on soit homme ou femme et qu'on pratique le cyclisme ?
Les femmes sont plus sensibles par les variations hormonales, elles sont plus sensibles, donc on est obligé d'être à l'écoute et d'avoir beaucoup d'échanges avec les cyclistes femmes pour notamment caler notre entraînement, notamment en suivant le cycle menstruel. Et par exemple en mettant très régulièrement des périodes de récupération. Elles sont aussi probablement plus sensibles, alors il y a quand même beaucoup d'hommes qui sont sensibles, mais par exemple aux troubles alimentaires. Et régulièrement, malheureusement, on perd des cyclistes qui se mettent à s'affamer. On ne va pas dire d'autres mots, hein, c'est s'affamer. Et c'est ce que j'appelle, c'est les étoiles filantes. C'est-à-dire que vous les voyez, elles sont très performantes pendant 6 mois, puis elles commencent à tomber malades, ou elles commencent à être trop fatiguées pour s'entraîner, et puis elles disparaissent pendant un an et demi, 2 ans. Donc il y a vraiment ce genre de choses où c'est de manière beaucoup plus criante par rapport au cyclisme masculin et de manière générale, le sport féminin, voilà, il y a vraiment une meilleure compréhension de la physiologie féminine à ce niveau-là, et parce que les femmes sont plus fragiles. Si on les entraîne correctement, par contre, elles progressent beaucoup plus vite que les hommes, parce que justement il y a ces variations hormonales, donc on arrive à donner un peu les séances adéquates selon le moment du cycle. Mais par contre, faut faire attention parce que sinon, on peut casser. On peut casser la sportive et des fois, elles ne reviennent pas. Nous, notre rôle d'éducateur sportif, enfin, on doit quand même l'avoir en tête parce qu'on a quand même une certaine responsabilité. Fais du vélo.
Fais du vélo. Ouais. C'est le seul moyen de se refaire une santé. Un peu de courage, allez, faut pédaler.
Prends ta bicyclette et tu seras toujours à l'heure.
C'est bon les filles, vous êtes
baisse la tête.
Vous avez vérifié vos pressions?
Viens ici.
Je te mets 6 pédales, toi? Je te mets 6 barres, c'est bon?
6 et demi, s'il te plaît. 6 et demi.
C'est bon. Les filles qui sont pas prêtes, là, on se dépêche, départ dans une minute.
Fanny Lechevestrier, vous avez suivi le Tour de France féminin lors de ces nouvelles éditions à partir de 2022. Quelle était l'ambiance sur ce Tour de France féminin ?
Ben, la première année, de ce que je me souviens, il y avait un peu d'appréhension, que ce soit côté organisation, côté journaliste. On se disait, est-ce que ça va prendre? Parce qu'il y avait déjà eu des éditions précédentes, il y a longtemps. On se souvient de Jeannie Longo qui avait fait le Tour. Mais c'était pas de la même durée. Et là, on voulait développer, les organisateurs voulaient développer quelque chose de pérenne. Est-ce que le public allait répondre présent? Et tout de suite, en fait, il y a eu un engouement au bord des routes avec un bon timing, si je puis dire, avec l'enchaînement Tour de France homme, Tour de France femme, qui a créé bien un engouement. En fait, les gens sont restés, regardaient les hommes, et ils sont restés au bord de la route finalement pour suivre les femmes. Et donc, petit à petit, au fil de la semaine, les interrogations, les doutes se sont levés. Des gens se disaient, ouais, mais les femmes qui font du vélo, est-ce qu'elles vont arriver? Les organisateurs avaient tenu tout de suite à mettre des épreuves, des étapes difficiles sur le parcours pour montrer qu'elles étaient capables. Elles ont bien sûr été capables de répondre. Il y a eu un superbe spectacle. Et donc, voilà, on est passé de l'appréhension à un véritable engouement. Et je pense que maintenant, c'est encore une épreuve très très jeune, mais c'est la plus suivie des courses féminines à travers le monde déjà, en seulement 3 ans d'existence. Et l'engouement est là, je pense que c'est une course qui est vraiment appelée à durer désormais.
Lilou, on se dépêche! Les filles, par contre, aujourd'hui il fait beau, mais les températures elles sont assez basses, donc j'espère que vous avez prévu un petit coup de vent pour les descentes.
Ouais,
c'est
bon.
Ok?
La poche. Là, c'est bon?
Ouais.
Ok. T'as pas pris ta sacoche, toi?
Vous avez le parcours sur le compteur?
Ouais,
42. Okay. Ouais. Vous avez de quoi réparer?
Je m'appelle Yann Jacaz, je suis maire de Praz-sur-Arly et là on se trouve sur le départ du domaine skiable qui sera aussi le départ de la dernière étape du Tour de France Femmes le 3 août prochain.
Comment se fait-il que la dernière étape du Tour de France féminin commence à Praz-sur-Arly?
Eh bien, en fait, je leur ai écrit quand j'ai appris qu'ils allaient relancer le Tour de France Femmes. Je trouvais ça génial parce que moi, je suis assez féministe. Je trouve qu'il y a vraiment une inégalité dans le sport entre les hommes et les femmes en général. Et c'est vrai particulièrement c'était vrai dans le vélo. Et puis, quand j'ai vu qu'ASO le relançait, j'étais très enthousiaste et je leur ai envoyé un mot pour leur dire que je trouvais ça super. Et puis je leur ai dit, bah, n'hésitez pas, si un jour vous passez par la Haute-Savoie, on serait ravis de vous accueillir. Et puis ils m'ont appelé il y a à peu près un an pour me demander si on était toujours intéressés, parce qu'ils avaient été touchés par le courrier, ils l'avaient gardé. Et ils sont venus faire des visites de terrain et puis ils ont trouvé que c'était propice pour faire un départ.
Quel va être le parcours des cyclistes dans cette dernière étape du Tour de France féminin?
Donc les femmes partiront du pied des pistes de Praz-sur-Arly, on est à 1036 mètres d'altitude, elles fileront en direction de Megève, traverseront la vallée après Salanches, donc toute la vallée de l'Arve, et puis ensuite elles vont s'attaquer au col de Jouplane, hein, qui est un col très difficile avec plus de 8,5% de moyenne, et un col qui passe pratiquement à 1700 mètres d'altitude, pour ensuite redescendre et s'attaquer à la dernière petite montée en direction de Châtel, qui est une station à 1200 mètres d'altitude.
Et quelle est la longueur de cette épreuve?
Alors c'est une journée qui va faire 124 km, donc avec en plus pas mal de dénivelé, donc une étape difficile.
Marion Rousse, directrice du Tour de France féminin.
Le Tour de France femmes était dans les tuyaux depuis quelques années. Malheureusement, il y a eu le Covid qui a retardé les choses. Mais on voyait de plus en plus de cyclisme féminin à la télévision et on voyait bien qu'il nous manquait une course de référence pour que les gens s'y intéressent, pour que ce soit médiatique, parce que ce qui nous manquait, c'était pas les courses, mais que les médias s'y intéressent et qu'on puisse nous regarder à la télévision. Donc les championnes étaient méconnues. Donc il fallait la course de référence, et la plus belle course au monde, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, c'est le Tour de France. Et dès la première année, eh bien, on a vu un engouement médiatique, un engouement populaire qui a été formidable, parce qu'on a vraiment pris les mêmes codes que ce qui fait le succès chez les hommes, c'est-à-dire la course, évidemment. Les championnes nous ont offert du gros spectacle. Mais tout ce qui est à côté et qui fait partie de la magie du tour, à savoir la caravane, à savoir que ça reste un spectacle gratuit, que les gens viennent nous voir pendant les vacances scolaires, tout ça a fait que ça a fonctionné dès le début. Et grâce au Tour de France femmes, eh bien maintenant les petites filles peuvent rêver de faire le Tour de France, de devenir cycliste professionnelle, d'être rémunérées, de pouvoir aller s'entraîner. On est là aussi pour créer des vocations. Donc maintenant, je ne vois plus aucun frein à la pratique du cyclisme féminin. Et je suis contente et ravie de voir de plus en plus de filles sur un vélo, que ce soit pour faire de la compétition, mais également pour pratiquer le vélo tout simplement. Donc ça, c'était vraiment ma plus grande fierté de voir que, il n'y a plus rien maintenant qui arrête les filles pour faire du vélo.
Dans les années 80, les cyclistes féminines subissaient un sexisme important, notamment de la part des coureurs cyclistes, des hommes, et peut-être du public aussi. Est-ce que aujourd'hui, vous entendez encore des marques de sexisme dans ce cyclisme féminin ?
Non, en tout cas pas parmi le peloton masculin. On a plus, il y a plus du tout de réflexion. On pense même au contraire à une certaine admiration. On pense récemment à une déclaration de Tadej Pogacar qui était interrogé sur je sais plus quel record qu'il avait battu et il a dit une coureuse l'a déjà fait, Lotte Kopecky. Je suis pas le premier à réaliser cet exploit. Donc non, les performances des femmes sont de plus en plus mises en avant. Et non, je n'ai pas souvenir de remarques désormais sexistes dans le peloton masculin et pas dans le public non plus. Il y avait du scepticisme, des doutes peut-être en 2022 sur les performances qu'elle pouvait faire, mais aujourd'hui, on ne se pose plus du tout cette question-là. Non.
Donc l'avenir du Tour de France femmes, je le vois radieux parce que le niveau est de plus en plus homogène parce qu'on a donné aux filles les moyens de pouvoir s'entraîner équitablement. Donc ça fait que le niveau est de plus en plus élevé, de plus en plus homogène. Et en plus, avec la particularité cette année de voir des Françaises vraiment revenir aux avant-postes. Ça fait des années et des années depuis Bernard Hinault qu'on essaye d'avoir un vainqueur homme français du prochain Tour de France. Bah, peut-être que ce sera une fille.
C'était Tour de France féminin, le récit d'une conquête. Deuxième épisode, la renaissance du cyclisme féminin. Avec Maïna Bessière, Océane Mahé, Marion Cartier, Marion Collin, Julien Chesnay, Marion Rousse, Frédéric Hurlin, Yann Jacaz et Fanny Lechevestrier. Remerciements à Nina Lavenue et Ninon Bardel. Archivina, Nathalie Christ et Hervé Hervanon. Recherche musicale, Antoine Vuillose. Chargé de programme, Sandrine Chaperon. Coordination, Emmanuel Laurentin. Un documentaire de Élise Gruau et François Teste.